Virginie des Maldives par Gilles Lenôtre. Ce fut le plus galant des naufrages, quelque chose comme une aimable catastrophe peinte par Boucher dans un gracieux boudoir de Choisy, tout juste assez effrayante pour stimuler le courage des hommes et aviver la beauté des femmes en leur fournissant l'occasion d'attitudes épouvantées et de pâmoisons langoureuses. Le navire d'Uras quittait à l'aube du 7 avril 1777 l'île de France, faisant voile vers Pondichéry. L'un des plus élégants marins du roi, M. Fréton de Vaujas, le commandait. Son second, M. de Barre, était un jeune officier intrépide, instruit, ardent et timide, à qui de longs séjours dans les pays extravagants avaient rendu familière la connaissance des plantes et des épices les plus ignorées des botanistes. À bord du navire se trouvaient deux Françaises, Mme Chevreau, à peine âgée de 23 ans, allait retrouver son mari, commissaire aux Indes. L'autre, Mademoiselle Goupy, qui avait 17 ans, s'était embarquée pour rejoindre à Pondichéry sa mère, veuve d'un représentant de la Compagnie des Indes. Madame Chevreau et Mademoiselle Goupy étaient toutes deux d'une beauté saisissante. La maturité précoce de la première rehaussait sa grâce d'une dignité simple. La seconde montrait le teint ambré des jolies créoles. Elle avait la taille élancée et svelte, des mains fines, des manières vives et spontanées et une sensibilité ingénue. Elle craignait la mer et pleurait beaucoup, hantée par le souvenir de la pudique mort de Virginie de la Tour, qui, comme nul ne peut l'ignorer, avait, 33 ans auparavant, péri sur les rochers de l'île d'Ambre dans le naufrage du Saint-Géran. Mademoiselle Goupy s'appelait Virginie elle aussi, et ses pressentiments lui faisaient redouter un sort semblable à celui de sa fameuse homonyme. Mais le moyen d'avoir peur longtemps sur un bateau tel que le Duras. La mer était admirable, le ciel radieux, l'air embaumé. Le capitaine, M. Fréton de Vaujas, et son lieutenant, M. de Barre, se montraient pleins de prévenance pour les passagères. Ils avaient disposé à l'endroit du pont qu'ombrageaient les voiles des hamacs de lianes où les deux Françaises restaient étendues tant que durait la chaleur du jour. On préparait pour elles des sorbets parfumés, des boissons exquises faites de jus de canne à sucre, de citron et de cédrat pressé. Une servante marronne, Marie-Maria, coiffée d'un madras orange avec des boules de cuivre aux oreilles, éventait les dames, tandis que Flic en Flac, leur groom nègre, dansait ou s'amusait d'une cage en roseau remplie d'oiseaux multicolores. M. de Vaujas jouait du violon. Le ballet des Indes galantes de Rameau était son triomphe. Et le timide M. de Barre, rougissant jusque dans sa courte barbe blonde, rêvait sur son banc de car et coulait des regards tendres vers Mademoiselle Virginie Goupy, qui ne paraissait pas insensible à cette muette contemplation. Il avait aussi, pour elle, des attentions plus éloquentes. Le 11 au matin, le Duras rencontra, monté sur leur sampan, des marins malais qui pêchaient des perles. M. de Barre sauta dans un canot, alla vers eux, et en échange de son mouchoir rouge et d'un peu de tabac, obtint la plus belle des perles qu'ils avaient recueillies. À peine revenu sur le navire, il se dirigea vers le hamac où feignait de somnoler Mademoiselle Goupy, et pliant comme par mégarde le genou en terre, il mit, d'un geste adroit et que nul ne put voir, dans la main de la jeune fille, la perle encore humide du secret des mers. Un soir, le capitaine, particulièrement inspiré, tirait de son instrument des sons entraînants quand, d'un coup sec, il s'arrêta subitement et, levant son archet vers l'horizon, indiqua un point noir autour duquel s'amassaient les nuages. Aussitôt le vent fraîchit, des oiseaux passèrent, affolés, la mer devint houleuse. « Messieurs, virez de bord !» cria le capitaine. « Serrez les voiles, voici les moussons !» À ces mots effrayants, tout l'équipage est sur pied. Les vagues s'élèvent. M. de Vaujas affronte l'ondée. Le flot rejaillit jusqu'à lui, inondant son gilet à fleurs, sa culotte de droguet, son vêtement de soie mauve. Au plus fort de la manœuvre, son archet d'une main, son violon de l'autre, il accélère l'effort des matelots. Mademoiselle Goupy pousse des cris d'effroi. Marie-Maria, agenouillée, invoque le ciel. Flic en Flac, à demi-mort de terreur, accomplit devant son gris-gris toutes sortes de contorsions déraisonnables. Tout à coup, un rocher blanc surgit à deux toises devant le navire, qui, soulevé par la vague, s'abîme sur les récifs et y reste fixé. L'équipage, en tumulte, se rue vers les bastingages. Nul n'obéit plus à la voix des chefs. Seule, Madame Chevreau garde son sang-froid. Elle saisit une hache, attaque le mat de misaine avec emportement. à la lueur des torches, dans la pluie et le vent, sous son petit chapeau relevé à la mousquetaire, la face étincelante et le poignet hardi, elle fait honte aux faibles et rallie les mutins. Des mains abattues ont construit un radeau. On y entasse la poudre et le salpêtre tiré de la cale, des caisses de provisions, des tonneaux de vin et d'eau-de-vie, et quand l'aurore se lève, quand apparaît à peu de distance la côte verte d'une île plantureuse, quand peu à peu s'apaise la tempête, le radeau est jeté à la mer et l'équipage s'y entasse. La première des deux femmes, Madame Chevreau, y descend. Mademoiselle Goupil s'écrie que jamais elle n'osera affronter un pareil danger. Le désordre où elle est de coiffure et de vêtements, l'accent de sa voix, l'animation de son teint, la font plus belle et plus attendrissante. Mais le moment n'est pas au jeu de sentiments. On la prend de force, on la lance sur le radeau que l'océan secoue et disloque. On y jette aussi Marie-Maria en larmes, et flic en flaque grelottant, et aussitôt les amarres sont rompues. Sur les planches mal jointes, M. de Barre, assis près de Virginie Goupil, veillait à la sûreté de la jeune fille éplorée. Le radeau, déjà, approchait du rivage, sur lequel se montraient des insulaires agitant des palmes en signe de paix. Virginie, dont la frayeur s'était calmée, souriait aux soins empressés du bel officier quand une lame surgit de l'abîme la happa. La jeune fille poussa un cri et disparut dans la mer. Au même instant, M. de Barre, d'un bond, s'y jeta, luttant pour l'atteindre contre les flots soulevés. On le vit bientôt, soutenant d'un bras Virginie évanouie, nageant de l'autre pour regagner le radeau. Madame Chevreau, d'un geste gracieux, lui lança, en manière de bouée, la souple écharpe dénouée de sa ceinture. L'officier la saisit. Mais l'écharpe se rompit, et le vaillant jeune homme n'eut pas d'autre chance de salut que de se diriger vers la rive. Celle-ci était si peu éloignée que bientôt il prit pied. Alors il respira et sortit de l'eau celle qu'il avait sauvée. À cet instant, Virginie ouvrit les yeux, et instinctivement, ses bras se nouèrent autour du cou de M. de Barre. La mère avait à peu près dépouillé la jeune fille de ses vêtements. Son jupon de linon, collé à ses hanches, en trahissait la courbe parfaite. Des fleurs de sargasse, des algues marines se mêlaient à ses cheveux dénoués. Elle était charmante ainsi, et les nègres qui la recueillirent la contemplaient avec vénération comme s'ils étaient en présence d'une des sirènes de l'océan. Alors commença pour les naufragés une délicieuse existence de Robinson. Celle des îles Maldives, où la tempête les avait jetés, était une terre bénie du ciel. Les indigènes furent conquis du premier moment par les Français, qui, à peine à terre, s'organisèrent en cortège conduit par M. de Vaujas. Celui-ci, faisant des pas comme à la parade et le mollet tendu, avançait, jouant sur son violon l'air du ballet des Indes galantes. On alla ainsi jusqu'à la hutte du chef de la peuplade, qui reçut les étrangers avec honneur. Trois fois son turban toucha la terre devant Madame Chevreau et Mademoiselle Goupil. Puis, il offrit un festin somptueux, composé d'œufs, de lait, de miel et de fruits, auquel M. de Beaujas riposta par une distribution d'eau-de-vie. Durant la fête, les matelots, employant les débris du navire, élevés sur la plage des tentes, sous lesquelles les naufragés allaient camper jusqu'au jour où un vaisseau du roi venu des Indes les porterait à leur destination. Ce fut un séjour enchanteur dans le plus merveilleux paysage, et je pense que l'art délicat de M. Edmond Pilon, qui nous a rapporté cette aventure, doit la rendre quelque peu plus attrayante encore qu'elle ne fut en réalité. Ce qui emplit de charme ce galant récit, c'est le trouble grandissant dont se pénètre le cœur de Virginie. Plus heureuse que l'héroïne du Saint-Géran, elle a échappé à la mort. Elle aime son sauveur, lui l'adore, et ils ne se parlent que des yeux. Un jour, pourtant, que Mademoiselle Goupil se réveillait d'un long sommeil sur un lit de mousse, elle trouva près d'elle une gerbe de fleurs à peine rosée, au cœur de laquelle était un billet. Tremblante d'émoi, elle lut « J'ai cueilli pour vous, sous les girofliers, à la faveur de l'ombre, ce bouquet d'arec. Il contient mon cœur. » 2. B. Un bouquet d'arec. Monsieur de Barre, on s'en souvient, était un savant botaniste. Évidemment, il avait choisi avec intention la fleur pâle et nocturne qui, comme toutes les fleurs de tous les pays du monde, devait avoir son langage. Mais quelle en était la signification? Comment répondre? Mademoiselle Goupil interrogea une sorte de mage qui, aux indigènes, servait d'interprète les jours de marché. Le bonhomme consentit à expliquer que l'envoi de l'arec venait d'un amoureux qui sollicitait la main de la jeune fille et que si à celle-ci la demande ne déplaisait pas, il lui suffisait de faire passer au soupirant soupçonné un bouquet de l'anjoli marabara, ce gui gracieux des tropiques qui croit sur l'arbre à pain et sur le bois immortel. Le soir même, M. de Bar recevait à son tour un bouquet au milieu duquel, sur une écorce fine, étaient gravés ces mots. « J'ai cueilli pour vous, sur l'arbre immortel, comme est mon sentiment, cette touffe de lance jolie Marabara, elle contient mon cœur, Virginie Goupy. » Quelques semaines plus tard, quand les naufragés, recueillis par la Bretagne, envoyés des Indes à leur recherche, débarquaient à Pondichéry, la mère de Virginie, déjà instruite de l'idylle, avant de serrer dans ses bras sa fille qu'elle avait cru ne jamais revoir, la poussa vers M. de Bar, qui se tenait à l'écart, timide et décontenancé, et bénit elle-même le premier baiser des deux amoureux défaillants de bonheur. Et c'est ainsi qu'eut lieu le seul mariage de Robinson dont l'histoire sans doute a jamais fait mention. Ainsi s'achève Virginie des Maldives par G. Lenôtre.